Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
L'allaitement, c'est pas que la nourriture, c'est aussi le lien affectif avec, avec la mère. Enfin, moi, j'entends plein de filles qui disent ah, « j'ai l'impression d'être une vache à lait ». Moi, j'ai jamais eu cette impression-là.
Donc, c'est vrai que moi, en tant que père, je mettais toute mon énergie pour que ça se passe le mieux possible.
C'est qu'on a des attentes dans notre société qui sont complètement irréalistes par rapport aux besoins d'un bébé.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Alors, Alice, Julien, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?
Eh bien, on est venu pour parler d'allaitement de nos deux enfants, Antoine et Clément.
Mm-hmm. Donc, vous avez fait le choix d'allaiter chacun de vos enfants.
Oui, exactement. On les a pas allaités, je les ai pas allaités la même durée. Il y a des choses qui ont changé, mais en tout cas, on a allaité Antoine et Clément.
D'accord. Ils ont quel âge, Antoine et Clément ?
Alors, Antoine a 4 ans et Clément a 2 ans.
D'accord. Alors, et pour vous, Julien, est-ce que également vous avez participé à cette décision ?
Oui, on a décidé de choisir un accouchement dans une maison de naissance, vraiment la moins médicalisée possible. Donc, c'était dans la suite logique, finalement, d'un accouchement presque naturel, d'enchaîner avec l'allaitement.
La question s'est pas vraiment posée, en fait.
C'était une
évidence entre nous et une continuité dans les grossesses qu'on a eues et dans notre désir d'être parents.
Vous disiez, Alice, que vous avez allaité des temps différents,
oui,
chacun de vos enfants. Comment ça s'est passé déjà pour Antoine ?
Alors, pour Antoine, déjà, à l'époque, je travaillais pas. J'avais décidé de prendre du temps après sa naissance. Et je l'ai allaité pendant 7 mois, exclusivement pendant 6 mois. Et puis, à partir de 6 mois, on a introduit l'alimentation. Et à 6 mois et demi, j'ai commencé le sevrage. Mais du coup, je l'ai allaité exclusivement pendant 6 mois. C'était assez merveilleux, notamment quand on a le temps et, entre guillemets, rien d'autre à faire, parce que du coup, on a vraiment pu se poser tous les deux, créer les conditions pour que ça se passe bien. Julien nous aidait dans le côté organisation et support logistique. Ça s'est bien passé. On l'a mis au sein tout de suite après sa naissance. Et du coup, ça s'est fait de manière très fluide, très naturelle. Et je pense, comme j'ai une croyance en moi, qu'on peut tout allaiter a priori, et que c'est plutôt... je pars pas du principe que ça peut mal se passer, ça arrive, mais j'avais pas cette croyance-là, et du coup, ça, je me suis même pas demandé est-ce que ça va marcher, je me suis juste dit que ça allait marcher.
Et pour Clément, est-ce que ça a été différent ?
Et pour Clément, alors ça a été tout aussi fluide, tout aussi naturel, et ça s'est très bien passé. Après, je savais que je reprenais le travail, alors j'avais un congé maternité, j'avais pris 6 mois, donc même si c'est plus long que la norme, il y avait quand même l'ombre de la reprise du travail qui fait qu'on commence à calculer dans sa tête combien de temps est-ce que je vais l'allaiter. Mais du coup, je l'ai allaité pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois et demi, il a repris la crèche. Et j'avais pas envie de tirer mon lait à la crèche, en fait. Antoine, j'avais tiré mon lait au bout d'un mois pour que Julien puisse aussi avoir un rôle à jouer, puisse me soulager pour les nuits, la journée, les sorties, pour que je recommence à boire et à manger un peu ce que je voulais. Et voilà. Mais pour Clément, je trouvais qu'avec un aîné, c'est plus compliqué d'allaiter. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon expérience. Je pense que j'aurais bien aimé l'allaiter plus longtemps. Mais le soir et le matin, avoir un aîné, notamment de 2 ans, vous avez eu un podcast sur les terrible two, mais voilà, avoir un enfant de 2 ans sur qui est dans les pattes pendant qu'on a un nourrisson à allaiter, je pense que l'allaitement, ça marche bien si on est détendu et si on prend du plaisir. Et que bah, du coup, là, c'est un peu compliqué d'être détendu et de prendre du plaisir quand on a un petit qui hurle maman à côté, qui a faim, qu'il faut gérer.
Julien, comment vous avez vécu voilà, ces deux temps d'allaitement pour chacun de vos enfants?
On a à la fois dans notre société un combat qui est important sur l'égalité homme-femme et qui est vraiment un vrai sujet. Il n'y a pas de raison qu'un homme et une femme ne soient pas payés la même somme d'argent, etc. Mais en même temps, il y a quand même des grandes différences physiologiques. Et dans la maternité, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment différent, quoi. Donc c'est vrai que moi, en tant que père, je mettais toute mon énergie pour que ça se passe le mieux possible. Mais il y a quand même un truc que les garçons peuvent pas faire, quoi. Et ça, c'est vrai que ça fait une grande différence. Et j'ai l'impression que on l'a beaucoup plus pris en compte la deuxième fois. C'est-à-dire que c'était plus clair, comme si les rôles étaient mieux distribués. Et ça, je pense que ça nous a aidé aussi à être mieux organisés. Je m'occupais en fait beaucoup plus d'Antoine quand Alice allaitait Clément, et qu'il y avait quelque chose de l'ordre qui était moins complexe quand Antoine, notre premier, se réveillait la nuit et que moi je me levais juste pour attraper Antoine pour le donner à Alice.
Alors, pour que je le mette au sein.
Pour que tu le mettes au sein, t'es juste le véhicule, quoi. Tu te sens pas très utile, même si c'est utile parce que ça a évité à Alice de se réveiller. Et c'est vrai que je lance peut-être un autre débat, mais c'est vrai que pour notre deuxième enfant, on a choisi le cododo, qui a vraiment changé le rapport
à l'allaitement
et au sommeil, quoi, qui nous a vraiment fait que c'était plus smooth.
En tout cas, dans ce que vous dites, Julien, c'est que votre rôle, il a été principalement autour de gérer toutes les conditions autour de l'allaitement. Que vous ne pouviez pas faire, mais par contre, vous pouviez créer un environnement, agir, voilà, pour faire des choses un peu plus matérielles dans la gestion, dans l'organisation, pour faciliter l'allaitement pour Alice.
Tout à fait.
Et votre enfant.
Tout à fait. C'est, en fait, finalement, c'est presque ce qu'on a décidé quand on a défini, finalement, ce qu'était notre maternité et notre paternité, chacun. Il y a des choses sur lesquelles je pourrais jamais remplacer Alice. Et Alice, elle a besoin d'avoir cet environnement de confiance
mon verre d'eau quand j'allaite.
Ton verre d'eau, ouais.
Très donc Julien vous apportait votre verre d'eau.
Julien m'apportait mes coussins, il m'aidait à caler mon bras pour que ça soit bien, il m'apportait mon verre d'eau. Si j'avais mon téléphone qui sonnait, bah du coup il allait l'éteindre pour que je puisse être concentrée sur un de mes deux enfants. Donc, il y a vraiment les conditions matérielles mises en place. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler sur les positions de l'allaitement. On est très décomplexé par rapport au corps de la femme notamment, et les positions que je prenais pour allaiter, tantôt allongée, tantôt j'essayais des positions, alors en ballon de rugby, je pense, voilà, on a peut-être l'occasion d'en reparler. Mais du coup, il faut être quand même assez à l'aise avec son corps, assez à l'aise avec le regard de son mari. Et moi, j'ai trouvé que le rôle de Julien était très très important dans la confiance que je pouvais avoir moi, de pas me sentir gênée à ses yeux. Quand on allait, moi j'entends plein de filles qui disent j'ai l'impression d'être une vache à lait. Moi j'ai jamais eu cette impression-là parce que j'ai toujours eu un regard bienveillant de la part de Julien. Et je pense que c'est tout un, enfin voilà, il y avait le rôle opérationnel, apporter le verre d'eau, mettre les coussins, mais il y a aussi le rôle de support émotionnel et bienveillance par rapport au corps de la femme qui change. On a les seins à l'air. En plus nous c'était l'été, les deux accouchements, il faisait 40 degrés. Ça peut être vite n'importe quoi si on veut s'en tenir aux convenances d'être bien tenu, assis, habillé, nanana. Voilà, là, j'étais un peu à moitié nue sur mon canapé et c'était OK parce que Julien était OK avec ça, j'étais OK avec ça et dans notre couple, ça fonctionnait bien comme ça et donc je pouvais être détendue pour allaiter mes enfants.
En tout cas, là, dans ce que vous dites, Alice, j'entends que le rôle de Julien, à la fois dans les aspects matériels, mais aussi le regard qu'il a porté sur vous, a été extrêmement important pour que les choses se passent bien.
Oui.
Donc, c'est pas qu'une histoire de femme, c'est vraiment une histoire de couple. Est-ce que pour Antoine ou pour Clément, vous avez l'un et l'autre peut-être rencontré des difficultés autour de l'allaitement?
On a eu une difficulté avec Antoine, c'est que il mangeait trop. Alors, pas à nos yeux, parce que pour nous, c'était pas un problème. C'était un gros bébé, il faisait 4,3 kg à la naissance, puis il a pris 2 kg le premier mois, 2 kg le deuxième mois. On faisait l'allaitement à la demande et tout se passait très bien. Il a commencé à faire des nuits au bout du troisième mois. Et puis là, on a vu une médecin qui nous a dit « Ouh là là, il est trop gros. Il faut commencer à rationner un peu, il faut mettre des horaires, espacer l'allaitement. » Et je pense qu'en fait, ça nous a fait perdre confiance en nous, en notre capacité justement qui était qui au début de l'allaitement à la naissance était très fort de on est des parents, on peut le faire, on a ça en nous. Et là soudainement quelqu'un a mis le doute et ça a créé une petite fissure. Et donc on s'est mis à essayer de repousser entre deux tétés, mais du coup Antoine pleurait, je pense qu'il a pas dû comprendre. Enfin, je sais pas si Julien, tu as ajouté quelque chose.
Oui, c'était très dur. Je pense que l'autorité du pédiatre a une grosse influence sur notre famille nucléaire, j'allais dire, et ça a eu beaucoup d'effets négatifs. Enfin, avec du recul. Hein. En fait, les bébés sont pas trop gros, et si quelqu'un m'entend, il y a qu'un conseil, c'est de pas écouter les conseils, même ce conseil. Et c'est vrai qu'elle nous a complètement enlevé ce qu'on avait créé, c'est-à-dire un triangle avec notre enfant. Il a commencé à plus faire ses nuits. Et puis surtout, elle a commencé en fait à mettre en doute la nourriture d'Alice, et puis aussi finalement l'autorité paternelle, puisque quand on lui dit mais s'il pleure, elle nous a dit bercez-le, comme si on l'avait pas déjà fait. Et donc je me suis retrouvé en fait à tourner en rond avec mon fils qui pleurait parce qu'il avait faim, essayer de lui faire autre chose que ce qu'il devait faire, c'est-à-dire se nourrir. Et donc ça nous a créé quelque chose. Aujourd'hui, donc il a 4 ans, on est encore en train de, je pense, payer les conséquences de ce mauvais avis de médecin. Donc c'est vraiment grave quoi pour nous. Et alors c'est pas que ça, bien sûr, les choses sont plus complexes, mais encore une fois, je pense qu'à ce moment-là, un enfant, un bébé de 3 mois ne peut pas être trop gros. Alors oui, il était rond, mais c'était pas grave.
Surtout que l'allaitement, c'est pas que la nourriture, c'est pas que le lait, c'est aussi le lien affectif avec la mère. Et donc c'est vrai que ça, on a pris un petit coup par rapport à ça.
En tout cas, là, vous dites vraiment qu'il y avait quelque chose où vous vous étiez fait confiance, vous étiez connecté, ouais. Vous aviez développé des ressources, des capacités, c'était fluide, ça fonctionnait très bien. Et puis, un tiers extérieur est venu un peu s'immiscer là-dedans et ça a rompu, finalement, cette confiance et amené des difficultés extérieures. Donc, en tout cas, j'entends l'importance de se faire confiance.
Oui. Et puis après, ça a créé aussi, on était ensemble en tant que parents vis-à-vis de notre enfant. Et là, ça a aussi créé, du coup, des distorsions entre nous. Je veux dire, maintenant, Julien qui berçait Antoine, qui pleurait, et moi qui disais, mais donne, on va le mettre au sein, maintenant, c'est pas le moment. Et du coup, ça a créé aussi, entre nous, en tant que parents, deux avis différents, de la raison, et jamais avec les mêmes avis, parce que tantôt, c'était l'un qui disait, allez, on s'en fiche, tantôt, c'était l'autre. Voilà, ça a créé ça.
Ça a pu créer des désaccords aussi et des tensions entre vous.
Surtout qu'on venait pas voir la médecin pour ça à l'origine. Hein.
Enfin... Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est que jusque-là, on avait fait un choix physiologique non médicalisé. Finalement, alors bien sûr, s'il avait eu le moindre chose, on serait allé dans un hôpital, il n'y a pas de problème. Mais jusque-là, on était dans quelque chose de très physiologique. Et la rencontre qu'on a avec la médecine vient nous gâcher un peu cet équilibre qu'on avait créé. Je trouve ça intéressant parce que alors c'est un médecin, c'est ce médecin et c'est pas une généralité. Hein. Mais voilà, je crois qu'avec Clément, après, on s'est beaucoup plus fait confiance.
En tout cas, là, vous dites aussi l'importance de trouver dans les personnes ressources, les tiers extérieurs, des personnes qui correspondent à votre manière de voir les choses, avec lesquelles vous vous sentez bien. Voilà, que ça peut être important de s'entourer, mais voilà, l'importance de trouver les bonnes personnes.
Oui. Que ce soit pendant la grossesse ou l'allaitement, quand j'ai des amis ou quand il y a des tiers qui nous racontaient des histoires un peu horribles, on les arrêtait en disant, attends, là, juste, c'est pas le moment, en fait. Là, je suis enceinte, j'ai pas envie d'entendre ton histoire d'accouchement qui s'est pas bien passé. Là, j'allaite, j'ai pas envie d'entendre que ta cousine, elle a ci ou ça. Enfin, et c'était aussi comment créer, comment se préserver et préserver ce petit cocon de. En fait, je pense que c'est la peur, quoi, qui vient nous crisper et, comme pour l'accouchement, mais voilà, c'est la peur et tout ce qu'il peut y avoir derrière qui nous a fait du mal, en tout cas. Et pour Clément, en l'occurrence, on n'a pas du tout eu ça parce qu'on avait beaucoup plus confiance en nous, on s'est beaucoup plus écouté. Et puis comme on avait déjà fait 7 mois d'allaitement quelque part, enfin, c'est comme le vélo, hein, on n'oublie pas. Moi, j'ai eu de la chance que les deux se sont très bien passés. Je pense que c'est pas forcément le cas. Enfin, je pense que ça dépend des femmes. Et Clément, je trouve que la difficulté qu'il y a eu, c'était sur la durée et accepter psychologiquement que je vais pas offrir la même chose qu'Antoine. Alors, je dis pas ça pour comparer mes deux enfants, mais c'est juste, j'ai pu offrir quelque chose à Antoine parce que je travaillais pas à ce moment-là, parce que j'avais le temps, les ressources, je travaillais pas. Là, pour Clément, il y a eu quelque chose, voilà, il y avait son grand frère, il y avait l'ombre du travail qui reprenait.
C'était... Il y avait un contexte et des contraintes différentes qu'il fallait prendre en compte.
Exactement. Et psychologiquement, se dire, je sais que pour mon enfant, c'est mieux l'allaitement le plus longtemps possible. C'est une croyance que j'ai très fort. Mais j'ai pas pu lui offrir ça. Donc c'est pas grave parce que c'était un choix. Puis on en a parlé avec Julien et ça s'est fait naturellement. Hein. Mais il y a quand même cette frustration de se dire mince, si seulement j'avais tenu 6 mois de plus, j'aurais été
Donc, l'arrêt n'est pas toujours quelque chose. Ouais, voilà. En tout cas, là aussi, c'est un choix, un moment de décision et qui peut susciter beaucoup d'émotions. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté à chacun, cette expérience de l'allaitement ?
C'est vrai que moi, je pense que ça crée un moment, en tout cas, tout à fait particulier. Ça prolonge un peu ce moment de la naissance, en fait, de ce cordon ombilical qui a été coupé. Ben, il continue quand même par ce contact, en fait. C'est un crescendo, quoi, qui vient accueillir le bébé dans ce monde d'une façon plus douce. Ce côté un peu, on a besoin de rien, quoi. On était en autarcie, finalement, émotionnelle. C'est assez chouette d'avoir cet équilibre qui se crée à trois.
Donc, ça a été vraiment une manière pour vous de faire famille.
Oui, tout à fait.
Pour vous, Alice ?
Moi, il y avait aussi la joie. Et là, je revois l'image de mes deux enfants, chacun à leur tour, mais la bouche pleine de lait, endormie, avec un grand sourire. Et ça, ce sentiment de se dire qu'on est mère, qu'on y arrive, que c'est là, qu'on nourrit nos enfants, effectivement, alimentairement. Enfin, que, ouais, je pense que ça donne. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a donné confiance en moi, dans mon rôle de mère, dans mon rôle de femme aussi, parce qu'on l'a fait ensemble. C'était très fort.
En tout cas, là, il y avait beaucoup d'émotions quand vous parlez.
Je vais voilà, pleurer bientôt.
Toute cette dimension affective et qu'en effet, l'allaitement, c'est pas qu'une nourriture physiologique, physique, mais c'est aussi une nourriture affective. Merci à tous les deux pour votre témoignage. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe dans le salon d'à côté et qu'on retrouve notre experte, Véronique Darmanja, qui est consultante en lactation. Bonjour Véronique. Donc Véronique Darmanja, vous êtes consultante en lactation, vous travaillez à Paris, vous avez ouvert un centre allaitement dans le 12e arrondissement, vous travaillez avec une équipe pour accompagner les femmes, les couples qui font ce choix d'allaiter leur enfant. Vous avez aussi un blog à tiers d'elle et vous êtes également formatrice. Alice et Julien voilà, nous ont fait part de leur expérience, de leur vécu, de l'allaitement de chacun de leurs enfants, Antoine et Clément. Alors pour eux, les choses se sont plutôt bien passées. Est-ce que, voilà, dans votre pratique, c'est quelque chose que vous observez ?
Ah bah, ma pratique, c'est biaisée par rapport à votre question, parce que si on vient me voir, c'est que ça se passe pas bien en général. Donc je vois beaucoup plus d'allaitements qui se passent mal que d'allaitements qui se passent bien, mais ça ne reflète pas la réalité de ce qui se passe pour une population. Forcément, j'ai un regard biaisé par rapport à ça.
D'accord. Pour vous, qu'est-ce que c'est l'allaitement, Véronique ?
Bah, d'abord, c'est juste un comportement normal de notre espèce. Déjà, tout simplement, c'est-à-dire que l'espèce humaine, elle est faite pour allaiter parce que c'est des mammifères. Donc, a priori, c'est juste ça, l'allaitement.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, d'un point de vue anatomique, physiologique, voilà, peut-être en, en quelques minutes, un petit condensé, voilà, nous expliquer de comment ça fonctionne ?
Alors, lors de la grossesse, on a des taux d'hormones qui augmentent, notamment le taux de prolactine qui augmente très fortement et notamment en fin de grossesse. Et puis, on a d'autres hormones qui bloquent la fabrication du lait. Et puis, la glande mammaire va se développer pendant la grossesse pour commencer à produire du lait. Et elle commence à produire les premières gouttes de lait pendant la grossesse. De toute façon, qu'on choisisse d'allaiter ou qu'on choisisse pas d'allaiter, les seins se sont préparés à allaiter. Et au moment de la naissance, on va avoir une chute brutale des hormones de grossesse qui vont libérer l'action de la prolactine. Et les seins vont se mettre à produire du lait en quantité dans les jours qui suivent la naissance pour le bébé.
Donc là, vous dites qu'il y a quelque chose voilà, déjà qui se prépare en amont dans le corps de la femme. Est-ce qu'il faut d'autres éléments pour que ça fonctionne ?
Alors, le démarrage va de toute façon fonctionner a priori chez tout le monde parce que les hormones sont faites pour ça, sauf si on a une femme qui a un problème hormonal particulier, on a des cas particuliers. Ensuite, si on ne fait rien, les seins ne sont pas vidés et donc ils vont arrêter de produire du lait petit à petit. Donc si on veut que l'allaitement se poursuive, il faut qu'on ait un bébé qui tète et qui tète efficacement parce que plus un bébé va drainer les seins, plus on va produire du lait. Les seins vont fabriquer du lait en réponse à la demande du bébé.
Du coup, est-ce que ça amène cette idée que le lait va s'adapter au bébé ?
Oui, le lait s'adapte au bébé parce qu'on a une interaction entre la mère et l'enfant. On a un échange d'informations. Un bébé qui tète avec sa salive transmet des informations à la mère qui va adapter son lait aux besoins du bébé. Quand on a une mère qui vit dans le même environnement que son bébé, elle rencontre aussi les mêmes microbes, donc elle va développer des défenses immunitaires
contre ces microbes-là. Et puis, le lait va s'adapter de plein de manières différentes et parfois surprenantes. On sait qu'une mère ne fabrique pas exactement le même lait pour une fille et pour un garçon, qu'elle fabrique pas le même lait en fonction de l'âge de l'enfant, qu'elle ne fabrique pas le même lait en fonction de la fréquence des tétés. Elle fabrique pas non plus le même lait en fonction de l'altitude. On a plein de variations qui s'adaptent aux conditions de vie de la famille et aux besoins de l'enfant.
Vous parliez du coup de cette préparation dans le corps de la femme pendant la grossesse. Est-ce qu'il y aurait des choses... D'ailleurs, Alice, vous, est-ce que vous avez fait des choses pour préparer votre allaitement? Alors, vous disiez que c'était dans une continuité logique pour vous dans cette physiologie-là. Mais est-ce que voilà, vous avez fait des choses pour préparer votre allaitement?
Alors oui, en fait, j'ai lu un livre qui parlait de l'allaitement et qui disait, en fait, l'allaitement, ça se prépare pendant la grossesse. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent, moi, je verrai après l'accouchement sur ce qu'il y a après. Et ben moi, le fait de lire sur le sujet, ça a créé le fait que l'allaitement, c'était déjà là, déjà existant, et ça m'a préparé psychologiquement. Puis on en avait parlé avec Julien, on en avait parlé avec la sage-femme. Donc, j'ai surtout fait ça pour préparer. J'ai une amie qui s'est brossé les seins au Scotch Brite pour préparer ses tétons. Ça m'a fait beaucoup rire. Et si pour elle, c'était OK, tant mieux. Mais voilà, j'ai pas fait ce genre de choses.
Moi, ça me fait pas rire parce que c'est extrêmement douloureux de faire ça. Et c'est à ne pas faire. Les seins, ils sont faits pour allaiter. Ouais. On n'a rien à faire corporellement pour préparer les seins.
D'accord. Ça me semble important, en effet, parce que moi, je reçois dans mon cabinet plein de femmes qui, comme ce que vous venez de dire, Alice, voilà, se frottent avec une brosse à dents le bout des tétons, voilà, pour soi-disant les préparer. Mais voilà, c'est important que vous nous disiez que ça n'est pas à faire.
La seule chose qu'on va faire quand on fait ça, c'est qu'on va les irriter, les mamelons. Mmh. On va abîmer la peau des mamelons, et donc on a beaucoup plus de risques d'avoir mal après quand on a fait des choses comme ça. Donc non, les seins, ils sont faits pour allaiter, on ne fait rien. On les laisse tranquilles.
Est-ce que du coup, il y aurait d'autres choses à faire pour préparer l'allaitement?
Alors, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont effectivement besoin de s'informer, de lire, de partager autour de l'allaitement. Il y a des gens qui ont besoin de rien du tout, parce que pour eux, de toute façon, c'est comme ça. Il y a des femmes qui vont poser leur bébé sur elles après la naissance et laisser le bébé faire, et ça va se passer très bien. Ça dépend beaucoup des gens. Par contre, si on a des craintes, si on a des appréhensions, là, ça vaut la peine d'effectivement soit lire des choses, soit rencontrer des personnes qui ont allaité pour qui ça s'est bien passé, soit rencontrer des professionnels. Si on a des craintes ou des questions, oui, on s'y penche.
Mmh. Oui, donc là, je pense aux auditrices qui peut-être là se posent la question justement d'allaiter ou non, et le fait voilà de pouvoir lire en amont, voilà, nourrir sa réflexion, ça peut aider aussi à faire un choix. Et si le choix est d'allaiter, voilà, de se préparer à ce qui va se passer. Alice et Julien nous disaient voilà, pour eux, globalement, ça s'était bien passé, mais d'un point de vue pratico-pratique, est-ce que vous avez rencontré, Alice, est-ce que vous avez eu des douleurs au sein, voilà, des crevasses, rencontré des difficultés plus techniques par rapport à l'allaitement?
Ouais, alors comme je vous ai dit, Antoine était un gros mangeur, enfin, il mangeait régulièrement, du coup, je produisais du coup beaucoup de lait. Et donc j'avais souvent les seins très engorgés, et donc ça peut faire très mal. Et du coup moi je mettais des cataplasmes d'argile, parce que comme je suis assez naturelle, du coup je faisais les naturels. Et puis je mettais de la crème à la lanoline quand j'avais quand je sentais que j'avais les mamelons qui commençaient à tirer un peu, je faisais ça.
Dans mon cabinet, je rencontre beaucoup de patientes qui ont des problèmes techniques, des douleurs diverses et variées, qui parfois, bien souvent, vont d'ailleurs les amener à arrêter l'allaitement, un peu par dépit, souvent. Véronique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à toutes ces douleurs?
Alors déjà, avoir mal quand on allaite, c'est pas normal. Mmh. On ne devrait jamais avoir mal quand on allaite. Sinon, je pense que l'espèce humaine serait morte depuis bien longtemps, parce que les femmes sont pas complètement maso, et que donc on ne fait pas quelque chose qui fait mal 8, 10, 12 fois par jour pendant des semaines et des mois. C'est pas possible. Mmh. Donc on ne devrait pas avoir mal. Si on a mal, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Alors, très simplement, très souvent, c'est juste que le bébé, on vit dans une société policée où il faut se tenir droite, où il faut bien se tenir. Et donc, les mamans se laissent pas aller à s'installer confortablement. Et souvent, les mamans, elles sont confortables après un accouchement en étant semi-inclinées vers l'arrière, pas du tout assise droite. Quand on vient d'accoucher, être assise droite, c'est tout sauf confortable, en général. Et pourtant, c'est ce qu'on attend des gens. de se tenir bien. Et combien de personnes ont entendu dans leur enfance « Tiens-toi droit !» Eh ben non, quand on allait se tenir droit, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Et se laisser aller à s'incliner vers l'arrière, à poser son bébé à plat ventre sur soi et à laisser chercher, puis à s'adapter, à ajuster le bébé, à ajuster sa propre position, déjà, c'est la première chose pour ne pas avoir mal et pour que ça se passe bien. Et puis, quand on a vraiment des douleurs, après, on va chercher pourquoi. Et on a certains bébés qui ont des particularités anatomiques qui font mal. Des bébés pour qui l'accouchement s'est pas très bien passé ou qui ont eu des forceps pour les sortir et qui ont le crâne un peu déformé, qui ont la mâchoire qui a pu bouger ou des choses comme ça. Donc après, il faut chercher pourquoi on a mal. Mais on n'est pas censé avoir mal.
Ce qui me semble important à dire. Vous disiez, Véronique, l'importance d'être à l'écoute de ses propres besoins pour les parents, la mère et le père, de se faire confiance. Voilà, vous dites par rapport à cette posture, de s'écouter, qu'est-ce qui est confortable pour moi et c'est ça qui fera que les choses se passeront bien.
Oui, c'est très important de s'écouter et c'est, je dirais, la chose la plus importante pour des nouveaux parents à apprendre, c'est se faire confiance. Parce qu'à partir du moment où vous êtes enceinte déjà, et puis après, où le bébé est né, il y a toujours quelqu'un pour vous dire que vous ne faites pas bien. Toujours quelqu'un pour vous dire qu'il faut faire autrement. Et si vous commencez à écouter tout le monde, vous avez tous les avis et leur contraire. Et c'est extrêmement déstabilisant. Alors que si on se fait confiance et qu'on s'écoute, on sait ce qui est bon pour son enfant parce qu'on est avec lui 24 heures sur 24. Personne ne connaît son enfant aussi bien que les parents. Et les parents devraient toujours se faire confiance. Et ce que je dis souvent aux gens que j'ai en consultation, c'est si ce que je vous dis vous convient pas, vous m'oubliez. Vous faites comme vous sentez les choses. Et c'est comme ça que ça se passe le mieux de manière générale avec un enfant. Et quel que soit son âge, qu'il ait 15 ans ou qu'il ait 15 jours, c'est pareil. Et pour l'allaitement, c'est pareil. Et j'étais extrêmement touchée par ce que vous disiez tout à l'heure avec le pédiatre qui vous a dit que votre bébé mangeait trop. Mais c'est aberrant de dire une chose comme ça. D'autant plus que toutes les recherches montrent qu'un bébé allaité et qui est uniquement allaité ne peut pas prendre trop de poids. On a beaucoup de bébés qui, à 6 mois, font des sumos. Ils sont énormes, ils ont des bourrelets partout. Vous avez des bébés qui, à 6 mois, font 12 kilos. Et ça ne veut pas dire qu'ils seront gros après. Pas du tout. En général, ils s'affinent par la suite. Et dire une chose comme ça à des parents, c'est saper leur confiance en eux. Et c'est terrible. C'est vraiment la chose à ne pas faire. Parce que le bien le plus précieux du parent, c'est de s'écouter et d'écouter son enfant.
Oui, d'ailleurs, vous l'avez vraiment bien dit, Alice et Julien, à quel point ça avait impacté votre confiance en vous et que ça a eu peut-être encore aujourd'hui des répercussions pour ce qui se passe pour Antoine.
Juste à propos des conseils, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de conseils de la part de mes tantes, de ma maman. « Ah, moi, à mon époque, on ne faisait pas comme ça. Bon, tu fais comme ça. Mais là, ton coude, il n'est pas un peu bas. » Là, c'est... Et le nombre de fois où j'ai dû leur dire « Mais laissez-moi tranquille, en fait. Je ne veux pas vos conseils. » Et c'est pas toujours facile parce que c'est pas toujours des gens dont on est proche, à qui on peut dire là, je m'en fous de ton conseil, là, tu te le gardes.
Du coup, vous disiez notamment que ce que vous avez vécu, de malheureux avec ce pédiatre a amené à ce que Antoine fasse plus ses nuits. Vous disiez aussi que pour Clément, du coup, vous aviez fait un choix différent. On parle souvent, en tout cas, moi, mes patientes souvent font le lien entre la question de l'allaitement et la question du sommeil. Véronique, est-ce qu'il y a des liens entre les deux?
Il y a plein de liens, mais pas forcément ceux qu'on imagine.
C'est-à-dire...
Il y a plein de liens parce que quand on allaite son enfant et qu'on dort dans la même pièce que son enfant, on synchronise ses cycles de sommeil sur ceux du bébé. Et que ce soit le père ou la mère d'ailleurs. Ce qui fait que quand le bébé se réveille, il nous réveille pas en phase de sommeil profond. Il nous réveille en phase de sommeil léger. Et c'est beaucoup moins fatigant parce qu'on se réveille plus facilement et on se rendort plus facilement. En plus, on a beaucoup d'études qui ont montré que finalement, les mamans dorment beaucoup mieux quand elles allaitent et elles sont moins fatiguées et elles dorment plus longtemps sur une nuit, malgré les réveils de l'enfant, parce qu'elles, justement, elles se réveillent moins longtemps et elles se rendorment plus facilement. Après, souvent, on entend les gens dire « Ah oui, mais tu l'allaites, alors il fait pas ses nuits. Si tu lui donnes des biberons, il va faire ses nuits. » Ça, c'est archi faux. On a des bébés allaités qui font leur nuit à un mois et qui dorment 12 heures d'affilée. On a des bébés au biberon qui se réveillent toujours 3 fois par nuit à 8 ou 9 mois. C'est qu'on a des attentes dans notre société qui sont complètement irréalistes par rapport aux besoins d'un bébé. Nous, on s'attend à ce qu'un enfant, il enchaîne 12 heures de sommeil, En gros, pour qu'il foute la paix à ses parents la nuit. Mais un enfant, ça fonctionne pas comme ça. Un bébé, c'est pas sécuritaire qu'il enchaîne 12 heures de sommeil sans se réveiller, parce que c'est là qu'on a le plus de risques de mort subite du nourrisson, quand on a des bébés qui dorment trop profondément. Un bébé, il a besoin de se réveiller régulièrement pour ressortir de l'état de sommeil, pour se maintenir en vie, tout simplement. Mmh. Et puis en plus, la plupart des bébés ont besoin de manger la nuit pour grossir correctement. Pas tous, mais la plupart des bébés ont besoin de ça. Et puis en fait, le fait de pouvoir enchaîner ces cycles de sommeil sans manger, c'est un apprentissage. Et c'est très culturel. En France, on s'attend à ne pas manger la nuit. Mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans notre pays, à notre époque. Si on regarde ce qui se passait au Moyen-Âge, à la Renaissance, jusqu'au 18e, moitié du 18e siècle à peu près, les gens ne faisaient pas une nuit d'affilée. Ils faisaient une première partie de nuit. Et puis après, ils se réveillaient, ils faisaient un repas en milieu de nuit. Et puis ils se recouchaient. On n'enchaînait pas une nuit d'affilée. Et donc, c'est l'attente qu'on a aujourd'hui, mais c'est culturel. Et tout le monde a faim la nuit. Quand vous avez digéré votre dernier repas, si vous avez dîné à 20h et que vous vous réveillez à 3h du matin, vous avez faim. Mais nous, on a appris à pas y faire attention parce que ça nous inquiète pas. Et on se rendort en ayant faim. Mais un bébé, lui, ça l'inquiète d'avoir faim. C'est une sensation désagréable qui peut même être douloureuse pour certains bébés. Donc, quand il a une sensation comme ça, il va téter ou demander un biberon s'il n'est pas allaité, mais peu importe. Et donc, savoir dormir toute la nuit sans manger, c'est un apprentissage. Et il y a des bébés qui l'apprennent très vite et très tôt, et des bébés qui vont l'apprendre beaucoup plus tard. Le fait d'allaiter la nuit est moins fatigant que de se lever pour faire un biberon. Déjà, première chose. Parce que quand vous devez vous lever à 2h du mat, préparer le biberon, le réchauffer, vous installer, le donner au bébé, le garder vertical, lui faire faire son rôle, aller le recoucher, c'est vraiment fatigant. Alors que attraper le bébé, le mettre au sein, se rendormir, c'est moins fatigant. Première chose. Deuxième chose, c'est pas mon conseil de mettre le bébé dans la chambre des parents. C'est un conseil aujourd'hui de santé publique. Les recommandations pour limiter les risques de mort subite du nouveau-né, c'est qu'un enfant dorme dans la chambre de ses parents pendant 6 mois. Donc, c'est vraiment important. On sait qu'on diminue très fortement les risques de mort subite du nourrisson avec un enfant qui dort dans la chambre de ses parents. Après, chaque famille va accommoder le sommeil à sa manière. Il y a des parents qui vont effectivement choisir, de ce que vous en parliez tout à l'heure, de faire du cododo. Il n'y a pas de problème si on respecte les règles de sécurité. Et les règles de sécurité en matière de cododo, c'est d'avoir un bébé qui ne peut pas passer sous la couette, qui ne peut pas tomber du lit, qui n'a pas d'oreiller ou de coussin à côté de sa tête, et que les parents n'aient pris aucune substance qui fait dormir. Donc pas d'alcool, pas de médicaments qui font dormir, pas de drogue, et qu'ils ne soient pas fumeurs. À partir du moment où on respecte ces conditions-là, on n'augmente pas les risques de mort subite du nouveau-né. Donc il y a des familles à qui ça convient très bien. Et puis il y a des familles qui vont me dire « Ah non, moi, hors de question, je peux pas dormir avec un bébé à côté de moi. » Donc on va s'adapter à chaque famille et trouver la solution qui marche pour cette famille-là. Et arrêter de juger les gens sur leur manière de dormir. Parce que ça aussi, on l'entend dans les cabinets de pédiatres. Hein. Mmh. Et donc c'est à chaque famille de trouver l'accommodement sécuritaire qui lui permet de dormir et de récupérer.
Vous, Alice et Julien, comment vous aviez organisé ce cododo ?
Je crois que c'est moi qui avais été un peu moteur pour Clément, notre deuxième enfant, parce que j'avais fabriqué un berceau hyper joli pour Antoine, mais qui était dans notre chambre, mais qui était quand même un peu éloigné de notre lit, qui nécessitait que je me lève ou qu'Alice se lève pour aller chercher Antoine pour le nourrir, etc. Et donc, il était très beau ce berceau, mais sous prétexte qu'il était beau, il était un peu compliqué en termes de...
D'usage.
Pas très pratique.
D'usage, mais parce qu'on manquait d'expérience. Et pour Clément, j'ai aussi fabriqué un lit que j'ai collé, en fait, du côté d'Alice. Donc, j'ai fait un petit lit avec des petites étoiles pour qu'il se sente bien.
En respectant les normes. En respectant les normes. Pas d'oreiller.
En respectant les normes.
Vous avez suivi un peu les lits cododo qu'on peut trouver dans le commerce.
Oui. Et puis, en suivant les normes et en faisant bien attention à les respecter. Moi, en tant que père, c'est clair que ça m'a changé la vie parce que c'était tellement plus doux. Mais encore une fois, chacun a sa solution à trouver. Mais de mon point de vue, Il y a une simplicité dans le cododo, il y a quelque chose de tellement plus simple. Et ce qui est drôle, c'est que notre premier enfant, Antoine, quand parfois on le prenait avec nous dans notre lit parce qu'on était crevés, et on était là, mais il faut pas, mais c'est pas bien, puis si je me retourne sur lui la nuit et tout, alors on se crée un monde, en fait, où on n'était pas sécurisé, alors qu'en fait, ça relève de quelque chose qui, au fond de nous, nous paraît plutôt physiologique. Et donc, in fine, se mettre les conditions pour être en sécurité, pour justement avoir un bébé qui a un espace à lui, et qu'on puisse dormir justement sans être stressé, de se dire « je vais me retourner sur lui », etc. Non, il a un endroit, c'est cet endroit, c'est sécurisé, c'est solide. Ben, ça permet vraiment d'améliorer la qualité du sommeil.
Moi, je pense que c'était douloureux pour moi de remettre Antoine dans son lit à chaque nuit, et que j'aurais préféré le garder avec moi. Et je pense que c'est ça qu'on a réussi à trouver avec Clément, à travers le cododo, et de se dire, mais en fait, je ne dépends pas de mon mari pour aller chercher mon enfant, ou alors j'ai pas à me lever de mon lit, aller chercher l'enfant, tout ça. Et là, il est à portée de main, on le remet dans son lit après. Moi, j'allaitais allongée, donc en plus, c'est hyper agréable. Alors, il y a toujours la peur de s'endormir et d'écraser son enfant, mais en fait... ça n'arrive pas parce qu'on a un sommeil, je pense, suffisamment léger pour être vigilant. Et
en fait, les études montrent, et on a fait beaucoup d'études en laboratoire en regardant les parents dormir avec l'enfant, sans l'enfant, etc., que les parents qui dorment avec leur enfant ne dorment pas de la même manière. Ils n'enchaînent pas les cycles de la même façon. Et qu'en fait, ils restent vigilants à leur enfant et on les observe. C'est très drôle de regarder ces études, les vidéos qui sont faites, parce que on voit la maman qui couvre son bébé, qu'il découvre, qu'il rapproche du sein, qu'il enlève du sein, qu'il remet sur le dos. Et le lendemain matin, elle s'en souvient pas du tout. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Mais en fait, elle l'a surveillée toute la nuit. Et elle n'a pas l'impression d'être fatiguée le matin. Donc en fait, on ne dort pas de la même manière. Et c'est pour ça que c'est très important de ne pas prendre de médicaments, par exemple, qui altèrent la vigilance. Parce qu'en fait, on est vigilant tout en dormant.
En tout cas, là, ce que vous dites, ça m'évoque vraiment ce dont on a parlé dans le premier épisode, sur les bouleversements psychologiques et cet état psychique aussi particulier en fin de grossesse, la préoccupation maternelle primaire qui se poursuit dans les premières semaines, premiers mois après la naissance de l'enfant. Et c'est tout cet état aussi psychologique, psychique, la journée, mais aussi la nuit qui permet à la mère de répondre aux besoins de son bébé, de s'adapter à lui.
C'est vrai aussi pour les pères. Mm-hmm. Et ça, c'est très hormonal. C'est-à-dire qu'on sait que les pères qui restent près de la dyade mère-bébé et qui sont proches vont sécréter aussi beaucoup plus d'ocytocine et vont se calquer sur le même comportement et vont avoir la même vigilance. Et il faut une proximité physique pour que ça fonctionne.
Alice, tout à l'heure, vous nous parliez de la durée de chacun de vos allaitements, que ça a été plus long pour Antoine parce que vous aviez cette disponibilité, qu'à ce moment-là, vous travailliez pas. Ça a été plus court pour Clément parce qu'il y avait cette reprise du travail. Véronique, qu'est-ce qu'il en est, voilà, de la durée de l'allaitement ?
Bah ça, c'est un choix tout ce qui est de plus personnel, je dirais, première chose. Si on laisse un enfant téter à volonté, de toute façon, un jour, il s'arrêtera. Parce que quand il n'a plus besoin de téter, il s'arrête. Mais il s'arrête pas à 3 mois ou à 6 mois. Un enfant qu'on laisse téter à volonté, il va téter entre 2 et 5 ans, en gros. Si on n'a pas envie de l'allaiter tout ce temps-là, bah tout simplement, on va s'arrêter avant quand on a envie de s'arrêter avant. C'est tout. Et c'est à chaque famille de trouver ce qui lui convient et comment elle le vit bien.
En tout cas, moi, souvent, dans mes patientes, ce que je peux observer, c'est qu'il y a beaucoup qui arrêtent après la maternité, à la sortie de la maternité. Et puis, j'ai envie de dire une deuxième vague au moment de la reprise du travail. Est-ce que c'est des choses aussi que vous pouvez observer ?
Oui, la sortie de la maternité, très souvent, c'est parce que l'allaitement a très mal démarré. Parce que malheureusement, le personnel de maternité est très mal formé sur l'allaitement. Et c'est pas des arrêts de gaieté de cœur. Très rarement. Les arrêts de sortie de maternité se passent mal, en général. Et les mamans le vivent mal. Les arrêts au moment de la reprise du travail, c'est très souvent parce qu'elles ne savent pas que c'est possible de continuer à allaiter tout en reprenant le travail et qu'elles n'ont pas les clés pour le faire parce que juste elles savent pas. Après, il y a des femmes qui choisissent réellement d'arrêter à ce moment-là parce que ça leur convient et ça, il y a aucun souci. Mais effectivement, on a une vague d'arrêt à ce moment-là, très souvent par méconnaissance. Mais on a de plus en plus de femmes qui continuent à allaiter après la reprise du travail de plein de manières différentes, soit en tirant leur lait, soit en faisant un allaitement mixte. On a plein de façons de faire différentes.
D'accord. En tout cas, là, moi, je pense à toutes ces mamans qui sont à la maternité où le début commence pas bien, où là, vous dites, voilà, parfois le personnel, ce qui paraît un peu étrange, voilà, que le personnel de maternité est pas toujours performant, en tout cas, n'a pas toujours les bonnes connaissances, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Qu'est-ce que vous pourriez recommander à ces mamans-là, voilà, qui rencontrent des difficultés à ce moment-là, voilà, qu'est-ce qu'elles peuvent faire?
Alors, de bien avoir conscience que le personnel de maternité veut globalement bien faire. C'est-à-dire que c'est des gens bien intentionnés qui n'ont pas de formation la plupart du temps. Et je le dis en toute connaissance de cause parce que je forme les maternités et donc je vois tout à fait ce qui se dit dans les maternités et toute la bonne volonté du personnel. Donc c'est pas qu'on veut leur faire du mal à ces mamans, c'est juste qu'on ne sait pas les aider. Mmh. Donc première chose, bien avoir conscience de ça. Deuxième chose, si on va se retrouver avec des discours contradictoires en maternité. Avec chaque personnel qui change, va vous dire une chose différente. Et c'est vraiment très, très perturbant pour les mamans.
Ça, elles le soulignent tout le temps.
Tout le temps.
Elles sont perdues, noyées d'informations et qu'elles savent pas comment choisir.
Donc, ce que je dirais, c'est soit on s'accroche à un membre du personnel qu'on a repéré avec qui ça passe bien et on va n'écouter que cette personne-là si c'est possible. Soit on contacte directement une consultante en lactation certifiée IBCLC qui sont les spécialistes aujourd'hui autour de l'allaitement parce qu'on rencontre des difficultés et pour avoir de l'aide compétente rapidement. On n'attend pas en se disant ça ira mieux dans un mois. Non, on demande de l'aide vite si ça ne va pas parce que c'est pas normal que ça n'aille pas.
Donc là, ça revient à ce que vous nous disiez tout à l'heure, qu'un allaitement ne doit pas être douloureux et que si, même dans les premiers jours, voilà, il y a des douleurs ou c'est compliqué, faut pas hésiter à réagir très vite et à se faire aider par quelqu'un de spécialisé très rapidement.
Oui, pour les douleurs, mais aussi pour un bébé qui prend pas de poids, pour il y a plein d'autres difficultés, il n'y a pas que les douleurs.
D'accord. Par rapport à cette question du choix du sevrage, vous disiez, voilà, ça reste un choix très personnel, individuel. Voilà, quels seraient les conseils que vous auriez envie de donner aux parents, voilà, à ce moment-là du sevrage?
Bah déjà de voir est-ce qu'ils choisissent ce sevrage ou est-ce qu'on leur impose. Première chose, un sevrage imposé ne se vit pas bien, tout simplement parce que c'est pas ce qu'on a envie de faire. Donc déjà là, on a un problème de base. Donc c'est important de pouvoir choisir le moment où on a envie de sevrer parce que ça convient à tout le monde dans la famille. L'autre question, c'est est-ce que ça convient à tout le monde dans la famille? C'est-à-dire que parfois, les parents sont pas d'accord entre eux. Et ça, c'est vraiment important de poser les choses, d'en parler, de voir qu'est-ce qui est important pour chacun des deux parents, pourquoi lui a envie de sevrer et lui n'a pas envie. Enfin, c'est vraiment bien de pouvoir poser les choses pour trouver une solution qui convienne à tout le monde. Et puis ensuite, en fonction de l'âge de l'enfant, le sevrage se passera de manière totalement différente. On ne sèvre pas de la même manière un enfant de 18 mois et un enfant de 3 mois. Ses besoins ne sont pas les mêmes, le rythme des tétés n'est pas le même, les seins de la mère ne vont pas réagir de la même manière. Donc là, après, c'est plein de conseils différents en fonction de l'âge de l'enfant.
D'où l'importance, voilà, d'aller chercher ces conseils spécifiques en fonction de sa situation. Vous, Alice, Julien, cette question du sevrage, elle s'est décidée à deux?
Non,
je pense pas. Mais moi, j'ai l'impression que tu m'as toujours dit, c'est moi qui allaite, c'est moi qui vois, et toi, tu t'adaptes, mais c'est...
Bah, je crois que c'est, oui, là, pour le coup, la discussion n'a pas été vraiment équilibrée, puisque là, pour le coup, c'est vraiment dans la féminité d'Alice. Et puis c'est quand Alice m'a dit là j'en peux plus, ça me fatigue trop, c'est trop dur, les nuits étaient compliquées et tout le monde nous disait faites-lui un biberon bourré de farine et de trucs, ça va le faire dormir. Non mais oui,
et,
je
vois. Il s'avère que la semaine d'après l'arrêt de l'allaitement, il s'est mis à dormir. Hein, donc... Pas de manière pérenne, les biberons de lait infantile ont au moins le mérite d'être digérés plus lentement.
Vous avez envie de réagir par rapport à ça?
Moi, j'ai envie de réagir sur les farines. Les farines, c'est vraiment le truc unanimement aujourd'hui. On ne donne pas de farine à un bébé, ça augmente les risques d'obésité de manière drastique. Donc, surtout pas de farine dans un biberon. Et un dernier mot par rapport à la notion de plaisir. Toutes les femmes ne prennent pas plaisir à allaiter. Il y a des femmes pour qui ça n'est absolument pas un plaisir, mais qui décident de le faire parce que pour elles, c'est quand même le meilleur choix pour leur famille. Et donc, quand on choisit d'allaiter ou quand on choisit de sevrer, il n'y a pas que la notion de plaisir, c'est un choix global par rapport à plein de paramètres. Et il y a des femmes pour qui ça n'est pas un plaisir et c'est pas grave en soi.
Oui, en tout cas, là, on revient à cette question du choix où voilà, il peut y avoir plein de raisons qui vont motiver cette décision d'allaiter. Et là aussi, c'est un choix individuel, singulier, qui appartient à chacun.
Tout à fait.
Comme dans le fait d'allaiter ou de donner un biberon. Et que là aussi, j'entends ce qui est important et ce qui ressort de tous nos échanges, c'est vraiment l'importance de la confiance, de se faire confiance et de choisir en tant que parent ce qui est le mieux, ce qui est le mieux pour soi, pour son enfant, pour son couple. Et puis, voilà, pour conclure, j'ai aussi beaucoup entendu cette question, voilà, en tout cas dans votre vécu, Alice et Julien, que ça vous a vraiment permis de vous construire en tant que parent, en tout cas que l'allaitement, ça peut voilà, aussi permettre la construction de son identité parentale, justement, en apprenant à se faire confiance.
Et puis, on est obligé d'apprendre à faire confiance à son enfant, parce que comme on maîtrise pas ce qu'il prend, on est obligé de lui faire confiance par rapport à ce qu'il vit, ce qu'il ressent, sa faim, etc. Et ça, c'est un immense cadeau à lui faire.
Souvent, je recommande des lectures à mes patients. Alice, Julien, est-ce que vous auriez un livre ou une recommandation?
Le guide de l'allaitement naturel de Iname Gasquin. Et elle a aussi écrit un livre sur l'accouchement naturel et dans lequel elle parle aussi d'allaitement. Qui, moi, je trouvais très intéressant à la fois parce qu'il y a des témoignages et ça explique la physiologie. Donc, c'était vraiment très intéressant qu'on ait un accouchement naturel ou pas, enfin, physiologique ou pas. Le livre est intéressant.
Vous, Véronique, est-ce que vous auriez...
Moi, c'est un peu biaisé parce que j'en ai écrit des livres sur l'allaitement, donc c'est compliqué de vous en donner d'autres. Dans les livres que j'ai écrits, il y en a un sur la reprise du travail et l'allaitement. Et il y en a un qui est sur l'allaitement de A à Z, et pas que sur l'allaitement, d'ailleurs, sur le choix aussi. Pourquoi j'ai envie de choisir d'allaiter ou pourquoi j'ai envie de choisir de ne pas allaiter, qui est ma bible de l'allaitement.
Merci Alice et Julien d'être venus témoigner, voilà, d'avoir partagé ce que vous avez vécu autour de l'allaitement avec nous aujourd'hui. Merci Véronique Darmanja. Je rappelle que vous êtes consultante en lactation, voilà, que vous exercez à Paris dans un centre allaitement que vous avez créé. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience et tous vos conseils.
Merci à vous.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at OseaMalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.